.fr.
The Ghostwriter, The Queen, Twilight. La musique d'Alexandre Desplat fait son cinéma Salle Pleyel à Paris, samedi 1er juin à 20h. Un concert exceptionnel France Musique SACEM avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Jean Desroyers. Réservation sur concert.radiofrance.fr. France Musique, une radio de Radio France.
France Inter.
La voix est libre.
Et c'est l'heure de Là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet et tout le monde.
Salut Daniel, tu nous l'as fait passer par hasard il y a peu de temps. Ils en ont passé juste un extrait ce midi. Si tu pouvais nous la faire en entier. La révolution permanente.
Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle. Comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille.
À des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout.
Jusqu'au bout.
Jusqu'au bout.
Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle. Bien aimée, mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. On l'appelle révolution permanente.
Oui, bonjour, c'est Yves de Toulouse, la ville rose. Je vous parlerai pas d'économie française, de la courbe du chômage qui monte, mais par contre de la disparition d'un auteur, compositeur, interprète, moi qui m'a beaucoup ému, que j'avais rencontré lors d'un festival de la chanson Montauban, c'est Georges Moustaki, qui a beaucoup écrit, qui s'est fait connaître en écrivant pour Edith Piaf, mais aussi pour Serge Reggiani, ou même pour Barbara, et puis tant d'autres. Donc voilà, je voulais saluer le métèque, en fait, celui qui est parti ce matin à Nice, donc après avoir fui à l'Égypte étant tout petit. On se souviendra qu'en ce mois de mai, ce joli mois de mai pluvieux, en 2013, vous êtes parti. Salut les artistes, à bientôt.
Oui, bonjour, Colette Dolbecq, des Amis de Barbara, l'association. Je voudrais simplement dire qu'on est bien triste. On a appris la mort de Georges Moustaki, qui a fait de si belles chansons, dont La Dame Brune. À lui et à Barbara, à qui on pense beaucoup, on envoie tous nos meilleurs sentiments. Au revoir.
Oui, bonjour. Voilà, je viens d'apprendre la disparition de Georges Moustaki, là, au journal de 13h. Et voilà, moi, ça me rappelle, c'était un album qu'il avait sorti, c'était à la fin des années 70. C'était un très bel album. Il y avait un hommage à Sacco et Vanzetti. Et puis, nous aussi, là, peut-être pour moi, la première chanson écologique, ça s'appelait Il y avait un jardin. Et je vais vous la lire, si vous la permettez. C'est une chanson pour les enfants qui naissent et qui vivent entre l'acier et le bitume, entre le béton et l'asphalte, et qui ne sauront peut-être jamais que la terre était un jardin. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. N'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu. Il y avait un jardin, une maison, des arbres, avec un lit de mousse pour y faire l'amour, et un petit ruisseau, roulant sans une vague, venait le rafraîchir et poursuivait son cours. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître, où nous aurions pu vivre insouciants et nus? Où est cette maison, toutes portes ouvertes, que je cherche encore et que je ne trouve plus?
Oui, bonjour Daniel, merci pour ton émission d'aujourd'hui sur la banalité du mal. C'était simplement pour conseiller à tous les auditeurs un livre de Robert Merle qu'on doit encore trouver, qui s'appelle « La mort est mon métier ». Lisez ce livre et vous comprendrez comment toutes ces horreurs ont pu finalement arriver. Voilà.
Merci pour tous ces messages, chers AMG, évidemment, comme tous, on est très touché par la mort de Georges Moustaki. Essayez de compter combien de fois les commentateurs évoqueront le soutien de Georges Moustaki à Poutou. Vous savez, aux dernières élections en 2012, Georges Moustaki a soutenu Poutou, le candidat du NPA. Vous allez voir qu'ils vont sans doute vous en parler beaucoup. Aujourd'hui, à Cannes, un hommage est rendu au créateur du Festival de Cannes. Et ce créateur du Festival de Cannes, il s'appelle Jean Zay. Alors vous connaissez un collège, une rue, Jean Zay, mais guère davantage. Or, depuis des années, il y a des fidèles, des chercheurs, des enseignants qui s'efforcent de faire connaître et reconnaître Jean Zay. Jean Zay a été assassiné à 40 ans, en 1944, par la milice de Vichy, et il fut le très jeune ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts du Front populaire en 1936. Il avait à peine 32 ans. Et en l'espace de 3 ans, 1936-1939, il allait non seulement créer le Festival de Cannes, mais aussi le Musée de l'Homme, le Musée d'Art moderne. Il allait organiser l'exposition universelle de 1937, lancer la Cinémathèque française, rénover la Bibliothèque nationale, restaurer le château de Versailles et la cathédrale de Reims, fonder le CNRS et même l'ENA. Et oui, l'École nationale d'administration, c'est une idée de Jean Zay. Il a surtout instauré l'obligation scolaire jusqu'à 14 ans. Il a imposé l'éducation physique à l'école, la médecine préventive scolaire. Évidemment, c'est dans le domaine de l'éducation nationale qu'il a laissé le souvenir le plus marquant. Alors, évidemment, en face, c'était très très dur. De Gringoire à Je suis partout, la presse de droite et l'extrême droite s'est acharnée sur Zay le franc-maçon ou sur Jean Zay le bolchevique, mais surtout sur le juif Jean Zay. En 1940, il est arrêté par Vichy, il est emprisonné jusqu'en 1944, et le 20 juin 1944, des miliciens viennent le chercher dans sa prison, l'abattent et le jettent dans un ravin. Son corps ne sera identifié qu'en 1948. Alors aujourd'hui, une évocation de Jean Zay avec ses deux filles, l'une née en 1936 dans l'effervescence du Front populaire et l'autre en 1940 lorsque son père est emprisonné. Jusqu'à 16h dans la Bastille suisse, c'est le parcours d'un homme de gauche au temps où la gauche essayait. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Ce message ne s'adresse pas aux auditeurs habituels de l'émission « Là-bas si j'y suis », mais à tous mes compagnons de combat de l'extrême droite. Mes amis, Dominique Vénère nous a donné hier un exemple de courage et de clairvoyance. Nous devons tous suivre son exemple. Notre voie est maintenant tracée. Nous devons tous prendre les armes et, comme lui, nous tirer une balle dans la tête.
Bonjour, samedi 25 mai à Saint-Michel-sur-Orge en Essonne, notre association, l'association départementale Gens du Voyage de l'Essonne, qui existe depuis 72, organise la deuxième édition de son festival itinérant Roue Libre.
C'est un événement festif et convivial. Il permettra une rencontre entre tous les habitants, voyageurs ou non. Le but est de faire tomber les préjugés et représentations qui existent de part et d'autre à travers des expositions, des concerts, animations pour enfants, projections, témoignages et échanges.
Cette année, le festival a pour thème le cirque. L'accès est libre et gratuit. On vous attend. Venez nombreux sur le champ de foire de Saint-Michel-sur-Orge le samedi 25 mai à partir de 14h.
Mesdames, Messieurs, veuillez écouter M. Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale.
Excusez-moi. Bonjour. On est en train de regarder cette affiche-là. Regardez, si on se retourne, il y a une affiche où il y a écrit Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, 1906-1944. Oui. Est-ce que vous connaissez Jean Zay ?
Non.
Non ?
Je connais juste le lycée.
Le lycée ?
Ouais.
Vous êtes au lycée Jean Zay ?
Non, j'y suis pas. Non.
Et vous, vous connaissez Jean Zay ?
Je connais pas non plus. Moi.
Non ?
Nous fêtons le 150e anniversaire de la Révolution française.
Jean Zay.
Pour attester notre volonté de leur rester fidèles.
Juin 1939.
Ils furent éloquents, c'est qu'ils venaient du peuple et qu'ils parlaient au peuple, à ce grand et noble peuple français qui s'est trouvé à travers l'histoire sur tous les chemins de l'idéal et qui, aujourd'hui encore, libre et fier, voit se tourner vers lui de tous les points du monde tant de regards angoissés et souvent tant de pensées martyres.
Et vous êtes d'Orléans tous les deux?
Oui.
Ouais. Vous avez quel âge, c'est pas indiscret?
18 ans. 18 ans aussi.
Et vous savez que juste derrière nous, là, regardez, il y a deux femmes qui sont là et qui sont les filles de Jean Zay. Est-ce que l'une de vous deux pourrait expliquer en quelques mots qui était Jean Zay?
Politique. Il a été ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts. Et quand il était jeune...
Et en 1936, donc pour vous, c'est vraiment,
oui,
c'est vraiment l'antiquité. Mais c'était au moment d'un gouvernement qui s'est appelé le Front populaire et qui, en particulier, a mis en place les congés payés, parce qu'avant, les ouvriers n'avaient pas de vacances. Mais il a été, hélas, pendant la guerre, comme c'était un homme de gauche et qu'il était juif, il a été assassiné par les miliciens du régime de Vichy. Vous avez peut-être vu ça en histoire.
Ouais. Non, mais pourtant, au lycée, on apprend sur le Front populaire et tout ça, mais j'ai jamais entendu parler de Jean Zay.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Anaël Verzeau, Jean Zay, quand la gauche essayait.
Flight number 2, arriving from...
Je viens d'arriver à Orléans. Je me trouve juste à côté du pont Georges V, magnifique pont. Et j'ai une image de carte postale avec une très belle vue sur la cathédrale Sainte-Croix. Et la Loire qui passe juste là, sous le pont, le tramway. Et on est là parce que c'est ici qu'est né Jean Zay, en 1904. Jean Zay... Il était ministre de l'Éducation nationale durant le Front populaire de 1936 à 1939. Et en 1944, il a été assassiné par les milices fascistes françaises de Vichy. Il est à l'origine de réformes importantes dans l'éducation nationale, notamment, c'est par exemple grâce à lui si on a des cantines scolaires. C'est également grâce à lui... On a l'instruction physique, le sport à l'école. C'est aussi grâce à lui si le montant des bourses scolaires est plus important et concerne plus de monde. C'est aussi lui qui a créé le CNRS, le Centre National de Recherche Scientifique. C'est lui qui est à l'origine de l'ENA. C'est lui qui a créé le Musée de l'Homme. Et c'est lui qui a créé, imaginé le Festival de Cannes. Et là, à Orléans, on va rencontrer les deux filles de Jean Zay, Hélène et Catherine. Voilà, là, on se dirige vers la maison de Catherine, l'aînée des deux filles.
Ah, bonjour!
Je vous en prie,
oui. Là, à droite?
Oui, oui, c'est là.
On vient d'arriver chez Catherine Zay. Une grande table dans le salon. Et Catherine a posé plusieurs photos de Jean Zay sur la table et des ouvrages autour de Jean Zay. Et voilà Hélène.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà
Anaël.
Hélène, ma sœur.
2 juin 1943. Je relis nos instructions officielles, horaires et programmes de 1937-1938.
Louis Jouvet, lisant un extrait de Souvenirs et solitude de Jean Zay.
Qui, à la veille de la guerre, résumèrent la doctrine française de l'enseignement.
Juillet 1947.
Celle qui inspirait alors les réformes entreprises. Former le caractère par la discipline de l'esprit et le développement des vertus intellectuelles. Apprendre à bien conduire sa raison en élève de ses héritiers français du message socratique, Montaigne et Descartes. À garder toujours éveillé l'esprit critique, à démêler le vrai du faux, à douter sainement, à observer, à comprendre autant qu'à connaître, à librement épanouir sa personnalité. Dans le souci de former plutôt des têtes bien faites que bien pleines, d'allumer un flambeau plutôt que de remplir une coupe, les professeurs devaient se garder attentivement de tout enseignement révélé, du dogmatisme, de la vérité acquise d'avance, des jugements tout faits couler dans les jeunes cerveaux. Les élèves, disaient les instructions de 1937, devront être capables d'examiner toutes choses en les rapportant à leurs principes et de raisonner sur elles en ne faisant état que des faits bien et dûment constatés. Ils devront être exercés à observer, à mesurer, à critiquer leurs propres observations en procédant à des vérifications rigoureuses. Ils auront besoin de connaître et de comprendre le monde où ils seront appelés à vivre. Or, au moment même où nous nous montrions volontairement si peu jacobins, de l'autre côté de nos frontières menacées, la politique envahissait au contraire l'enseignement. La culture passait après le parti. Le credo politique chassait le libre raisonnement, traquait l'indépendance d'esprit. Le fanatisme remplaçait l'examen.
Réveille-toi, peuple de France, il faut sauver l'humanité. Redresse-toi, reprends confiance, un souffle d'espoir est passé. Dès demain que notre patrie ranime son flambeau, l'univers entier nous envie, écoutons les échos. C'est la voix du Front populaire, c'est le chant de la liberté. C'est l'appel de la France entière, pour l'union, la fraternité. Sur le chemin, le soleil brille, travailleurs, tendez-vous la main, pour briser les 200 familles et délivrer le genre humain. Dans les cités et les campagnes, allons camarades en avant, pour nos foyers, pour nos campagnes et pour le pain de nos enfants. Car la classe laborieuse ardente a proclamé qu'elle veut une France heureuse en pleine égalité. C'est la voix du Front populaire, c'est le chant de la liberté, c'est l'appel de la France entière, pour l'union, la fraternité. Sur le chemin, le soleil brille, travailleurs, tendez-vous la main, pour briser les 200 familles et délivrer le genre humain.
Catherine, vous êtes l'aînée des deux filles.
Mmh. Donc, je suis très fière d'être née en 1936.
C'est l'année du Front populaire.
Oui, c'est quelque chose qui, avant même d'en être conscient, vous est une date importante.
Hélène, vous êtes née quelques années plus tard, en 1940.
En 1940, oui, en août 1940. Et autant la naissance de Catherine se déroule dans le... époque extraordinaire de l'enthousiasme du Front populaire. Autant l'année 40, bon, tout le monde la connaît, mais sur le plan familial, c'est le drame absolu, puisque nous sommes au Maroc suite à l'affaire du Massilia. Le Massilia, le bateau qui est donc parti au moment où Pétain conclut l'armistice, et pour s'opposer à l'armistice, c'est-à-dire pour continuer la lutte, et un certain nombre de parlementaires s'embarquent sur ce bateau pour continuer la lutte, compte tenu du fait qu'il y avait encore de quoi continuer la guerre, mais en dehors du territoire national, bien sûr, puisque Pétain avait demandé l'armistice. Et donc on se retrouve au Maroc, mon père, Catherine, et ma mère qui est enceinte. Et notre père est arrêté par Vichy, on précisera sans doute tout à l'heure pourquoi. Il est transféré en France le 16 août 1940, et moi je nais 10 jours après. Donc ma mère est toute seule là-bas, dans un pays qu'elle ne connaît pas, avec une ambiance de déchaînement de la propagande de Vichy, et en particulier propagande antisémite contre Jean Zay et contre les gens du Massilia, à tel point que, et ça c'est Mendès France qui le raconte, elle a beaucoup de mal à trouver une clinique qui l'accueille. Et moi je n'ai connu mon père donc en mai 41.
Il faut présenter qui était votre père. Il est né ici à Orléans. Absolument. En 1904, c'est
en
ça
1904,
Catherine,
à Orléans, d'un père et d'une mère qui l'un et l'autre sont nés à Orléans. Léon Zay est né ici.
Léon Zay qui était le père de Jean Zay.
Qui était le père, dont la famille est juive alsacienne, Metz en particulier.
Jean Zay va devenir avocat.
Dès 1924, il entre en politique, il fait des conférences politiques, il convainc les gens. Lucie Aubrac, même, qui avait suivi les campagnes électorales de Jean Zay, elle racontait qu'elle suivait ses campagnes à bicyclette. Elle a témoigné de cette conviction qu'il mettait parce qu'il avait un langage qui était capable de changer la vie des gens. Et donc, il a été élu en 1932. Il avait donné la mesure de son talent politique.
Il a été élu ici à Orléans.
C'est vrai que le Parti radical l'a soutenu. Mm-hmm. On peut dire que c'était un radical à gauche. À gauche dans le Parti radical.
Au moment où il est élu ici, il a quel âge ?
27 ans.
Il a 27,
27
ans.
27 ans. Il est largement élu avec des voix communistes. Oh, c'est au fond déjà un peu les débuts du Front populaire. Je veux dire, il sera celui à Orléans qui va vraiment mettre en marche le Front populaire. Et c'était quelqu'un qui a eu des difficultés à imposer les réformes qu'il voyait parce qu'elles étaient formidablement révolutionnaires.
J'ai travaillé avec Jean Zay.
Léon Blum.
J'ai vécu avec Jean Zay de près.
Cérémonie à la mémoire de Jean Zay, 1er juillet 1947.
Régulièrement, intimement, durant de longs mois, j'ai discuté avec lui beaucoup de graves problèmes. J'ai fait face avec lui à des crises difficiles. Et j'ai su que l'éclat de son début n'avait pas menti. Il tenait tout ce qu'il avait promis et il tenait même davantage. Il alliait la sagesse à la fermeté et à une certaine intrépidité audacieuse et aventureuse. Il avait le scrupule de la réflexion intérieure et l'esprit de décision. Tout en lui respirait la noblesse de la pensée, le désintéressement, la loyauté, le courage, l'amour du bien public. Quel admirable instrument façonné d'avance pour les plus grands postes de la vie nationale. Il en a été payé par l'envie, par la calomnie, par l'outrage, par un arrêt qu'on a cru rendre infamant, par un long emprisonnement, enfin par un assassinat si lâchement et si minutieusement perpétré qu'on n'en connaît encore ni le lieu exact, ni les circonstances.
Voilà, on est toujours à Orléans avec Hélène et Catherine Zay, les deux filles de Jean Zay.
Vous voyez cette photo là, qui est donc une photo du 14 juillet 1935 au vélodrome Buffalo de Montrouge. 8000 délégués des provinces prêtent serment. L'après-midi, avec tous les dirigeants de la gauche, Jean Zay participe au monumental défilé de la Bastille à la Nation. 500 000 personnes. Et vous le voyez là, vous voyez, il tient
le drapeau.
Il a la cigarette au doigt parce qu'il fumait beaucoup.
Ah bon ?
Oui, beaucoup.
Il y a une grande pancarte qui est dressée par des hommes. Il est écrit...
Alors, il est écrit « Nous faisons le serment solennel de rester unis pour désarmer et dissoudre les ligues factieuses, pour défendre et développer les libertés démocratiques. » Alors après, il y a quelque chose que je ne lis pas et que ça se termine par « paix humaine ».« Paix humaine ».
Voilà, « dissoudre les ligues factieuses ».
Voilà, c'est ça.
C'est ligues fascistes.
Oui, absolument. Qui était quand même très en action à ce moment-là.
En 1936, il rejoint le Front populaire et il est choisi par Léon Blum comme ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts. Et Jean Zay mène des réformes fondamentales qui seront ensuite reprises et poursuivies après la guerre, pendant les Trente Glorieuses. Et parmi ces réformes, alors concernant l'éducation, il y en a toute une série. On se dit, mais comment est-ce qu'il a fait pour mettre tout ça en place en si peu de temps, puisqu'on lui doit notamment les cantines scolaires, l'éducation physique et sportive à l'école. Et Hélène ?
Et le loisir dirigé, en particulier l'idée qu'il fallait emmener les petits-enfants voir ce qui se passait dans le monde extérieur, que ce soit dans les prés ou dans une usine, etc. Donc c'est ce qu'on appelle les loisirs dirigés, qui a fait scandale auprès de certains milieux réactionnaires de l'éducation nationale, puisque certains, dans les oppositions qu'il a rencontrées, l'appelaient le ministre de la récréation nationale. Parce que l'idée de faire sortir les enfants comme ça, pour certains, était considérée comme du temps perdu. Il a aussi ouvert l'éducation nationale à des moyens pédagogiques nouveaux, en particulier le cinéma, cinéma scolaire et la radio scolaire. La première grande mesure qu'il prend, c'est l'augmentation de la scolarité jusqu'à 14 ans. Et surtout, il a fait confiance aux enseignants. Et il leur a dit, allez-y, expérimentez, faites, d'ailleurs, freinez. Célestin Freinet, qui est bien connu, a été très soutenu par Jean Zay. C'est un ministère qui souhaite que chaque enfant, où qu'il soit et quel que soit le territoire où il est né, et quelle que soit la famille où il est né, ait les mêmes chances. Parce qu'il y a une chose qui frappe, c'est l'extraordinaire jeunesse, quoi. Non seulement du personnage, mais de l'action qu'il a mise en... Il y a un enthousiasme et aussi une vision, vraiment. Et par exemple, la création de l'ENA. Alors évidemment, on a une vision de l'ENA actuellement qui est très particulière, mais à l'époque, ce n'est pas du tout celle-là. Il existait une école libre des sciences politiques qui était réservée à une élite, disons, pour aller très vite. Et là, il veut faire une école qui soit ouverte à tout le monde. Et il a cette phrase que moi, je trouve très belle. Quel enfant du peuple a jamais pu être ambassadeur ?
Et pendant qu'on parle, il y a un petit garçon qui est arrivé là, qui est installé dans le canapé.
Gabriel.
C'est Gabriel ?
Oui, c'est Gabriel, c'est donc mon petit-fils qui a 9 ans et qui connaît l'existence de son arrière-grand-père, oui.
Je sais qu'il a... C'est aussi un peu grâce à lui qu'on a eu l'école laïque et obligatoire. Un peu, les congés payés.
Les 40 heures de travail par semaine, ça c'est le Front Populaire aussi.
Ah non, ça je connaissais pas.
On parle beaucoup en ce moment des préparatifs du Festival International du Film à Cannes. On a dit que le Festival International du Film à Cannes serait le prétexte d'une série de fêtes importantes. Est-ce bien exact, monsieur le ministre ?
Bien entendu, le festival... Ne l'oubliez pas, durera du 1er au 20 septembre.
Jean Zay, 1939.
La Côte d'Azur est un cadre unique. Du reste, les préparatifs se poursuivent activement à Cannes. Les travaux d'aménagement du hall du casino transformeront celui-ci en une salle luxueuse qui contiendra 1000 places. Décoration ultramoderne, sonorisation méticuleusement étudiée, fauteuil spacieux, rien n'a été omis.
Il y aura aussi des galas de films.
Oui, et en dehors de ceci, un programme de fêtes extrêmement important est prévu. Ajoutez que toutes les manifestations du festival seront filmées au jour le jour et projetées ensuite au cours des galas. Nous espérons ainsi que le Festival international du film de Cannes sera un triomphe de l'organisation de l'accueil et du goût français.
C'est quand même assez incroyable le nombre de choses que Jean Zay a mis en place en si peu de temps.
Le droit d'auteur.
Le droit d'auteur.
Le droit d'auteur. Alors il explique que les auteurs, c'est leurs œuvres, c'était une marchandise, quoi, qu'ils en étaient dépossédés. Donc il dépose un projet de loi sur le droit d'auteur. Et quelque chose que moi je ne vois pas citer beaucoup, c'est ce qu'on appelle le 1%. Le 1%, c'est quand une collectivité publique, avec de l'argent public, construit une école, un gymnase ou une construction publique, elle doit consacrer 1% du budget à une œuvre d'art. Ça, c'est pour soutenir les artistes. Le musée d'art moderne, c'est aussi une création de Jean Zay. De même que le musée de l'homme et le musée des arts et de traditions populaires.
Vous, Hélène, vous faites de la recherche ?
Alors, moi, d'abord, j'ai été professeure. Mais maintenant, je n'enseigne plus et je me suis consacrée à la création d'un centre d'études et de recherche sur les camps d'internement du Loiret, c'est-à-dire deux camps d'internement de 1941 à 1943 qui ont d'une part interné plus de 16 000 juifs, dont plus de 4 000 enfants, les enfants du Veldiv, ceux qui ont été arrêtés avec leur mère à la rafle du Veldiv, qui ont été donc internés dans des conditions terribles, séparés de leur mère, enfin littéralement martyrisés, et ensuite déportés vers Auschwitz-Birkenau, d'où aucun n'est revenu, pas un seul. Et ça s'est passé à 40 km d'Orléans. J'ajoute qu'il y avait un troisième camp, à Jargeau, encore plus proche d'Orléans, à 20 km, où des Tziganes ont été internés pendant plus de 4 ans. Il n'y a pas eu de déportation, mais un internement extrêmement dur, avec une mortalité très forte. C'est une histoire qui est porteuse d'enseignements et je pense qu'elle est essentielle pour notre présent. Savoir comment tout ça a été rendu possible, parce qu'on n'a pas été tout de suite dans l'horreur. Ça a commencé par le fait de désigner une population en disant « cette population est responsable de tous nos malheurs ».
D'ailleurs, si on revient sur Jean Zay, ça a été une raison essentielle pour laquelle il a été mis en prison, puis assassiné par les milices de Vichy.
Il y a une double haine. Une haine antisémite. Très clairement, dès 1932, il est désigné comme le juif emblématique. Et Blum, Mandel, Jean Zay, c'étaient les trois juifs emblématiques, si on peut dire. Le juif pour les antisémites le plus dangereux, c'est justement celui qui s'occupe d'éducation. Parce que ce soit les enseignants, c'est ceux qui s'insinuent dans l'esprit de nos enfants. Et le fait qu'en effet, il ait une éducation protestante pour les antisémites, ça ne fait que renforcer, parce que le juif, c'est celui qui se dissimule.
Et en plus, il était franc-maçon.
Et donc le fait qu'il soit franc-maçon n'arrangeait rien. Donc c'est la haine antisémite, mais c'est aussi la haine politique. Les hommes qui arrivent au pouvoir avec Vichy n'ont qu'une idée, c'est de tuer la République. D'ailleurs, 10 juillet, plein pouvoir, ils assassinent la République le 10 juillet 1940. Et Jean Zay est en effet certainement un symbole de cette République qu'ils détestent. Et la création du Festival de Cannes, il y a aussi de ça, puisque en 1938, à la Bostra de Venise, c'est les régimes fascistes qui avaient imposé le palmarès. Hitler avait imposé pour le Grand Prix le film Les Dieux du Stade, et il y avait eu un film soutenu par Mussolini, donc la Mostra de Venise était totalement aux mains des régimes fascistes. Donc les pays démocratiques décident de ne plus y retourner, et donc ça va être la création du Festival de Cannes. L'idée, c'est de créer un festival international et qui soit dans un pays démocratique et qui soit ouvert à tous les films des pays. C'est aussi un acte politique, la création du festival.
Il y a des choses qu'il a mises en place comme ça qu'on aimerait retrouver aujourd'hui.
Quelqu'un m'a dit une fois, au fond, changeait, c'est une icône républicaine.
C'est-à-dire
la référence à la République, la référence à, je crois, l'engagement d'un homme politique totalement sincère, désintéressé, et qui a été jusqu'au bout de ses idées, qui pratiquement en est mort, parce que son assassinat, ce n'est pas par hasard. C'est lié à tout ce qu'il a été, à ce qu'il a défendu comme homme politique, à la fois dans les domaines qui étaient ceux de son ministère, mais dans le domaine politique de son temps, la résistance au fascisme, l'action pour unir la gauche, et parce que c'était un enjeu politique fort. Et je crois que toutes ces, comment dire, cette façon de faire de la politique, d'une certaine façon, cette méthode aussi pour gouverner, je crois que voilà, ça dit quelque chose maintenant, parce qu'on en a peut-être besoin. Et une vraie gauche, en fait, des vraies idées de gauche. C'est une période, bon, c'est le Front populaire, c'est pour ça que ça reste presque mythique, parce que la gauche a vraiment gouverné, pas longtemps, mais quand même. Et qu'elle a surtout agi.
Il faut croire que le travail, la confiance et la patience viennent à bout de tout, car il est très vrai que du petit caillouti de la prison, Jean Zay était parvenu à tirer des radis roses, des tomates et des fleurs.
C'est évidemment dans le domaine de l'éducation que le nom de Jean Zay est sans doute le moins oublié. C'est à Jean Zay qu'on doit tout ce qui fait l'école moderne. Il avait notamment encouragé l'école Freinet, l'école de Célestin Freinet, avec Hélène et Catherine Zay, qui entretiennent la flamme de la mémoire de Jean Zay. Il y a des chercheurs comme Antoine Prost, qui est un très fin connaisseur de l'œuvre de Jean Zay. Il y a aussi Olivier Loube, auteur d'un Jean Zay, l'inconnu de la République, et Gérard Boulanger, l'auteur de Jean Zay, la République assassinée. Pour Gérard Boulanger, Jean Zay, c'est une seconde affaire Dreyfus.
Gérard Boulanger ?
Oui.
Oui, bonjour. Vous avez entrepris des recherches importantes sur Jean Zay, qui vous ont conduit à écrire un livre qui s'intitule « L'affaire Jean Zay, la République assassinée ». D'abord, en lisant votre livre, on est étonné de voir tout ce qu'a fait Jean Zay en seulement 3 ans.
C'est sans doute un des ministres de la Troisième République qui a l'œuvre la plus extraordinaire, la plus complète et la plus étonnante.
Qui a tué Jean Zay ?
Alors, moi ce qui m'a fasciné, c'est de voir à quel point l'extrême droite maurrassienne, que j'appelle national-catholique, parce qu'elle est véritablement à la jonction de cet imaginaire nationaliste et de l'imaginaire catholique, et notamment parce qu'on l'oppose à Jeanne d'Arc dans la ville d'Orléans, cette extrême droite, en fait, c'est l'héritière de l'affaire Dreyfus. L'affaire Jean Zay, pour moi, c'est une affaire Dreyfus silencieuse. Et on est bien dans le climat de l'affaire Dreyfus, effectivement, parce que quand il a 16 ans, ben, c'est le moment où Jeanne d'Arc est béatifiée, et la ville d'Orléans y a joué un très grand rôle, mais aussi parce que, en fait, l'extrême droite maurrassienne ne le combat pas en disant « on ne vous aime pas parce que vous êtes un représentant de cette république égalitaire qu'on déteste », mais « on vous interdit de parler parce que vous êtes juif ». Il y a donc un déplacement du discours politique, de la critique politique proprement dite, à l'appel à un imaginaire qui laisse sans voix, qui laisse sans réponse. D'une certaine manière, il n'est pas dans le judaïsme au sens où il n'est pas dans la religion juive. Est-ce qu'il est dans la judéité au sens où est-ce qu'il se revendiquerait lui-même du fait d'être juif ? On n'en sait rien parce qu'il n'en dit rien. Et donc, il est dans une position où, en fait, comment voulez-vous répondre à des choses comme ça ? Il n'y a pas de réponse. Bon, moi, j'ai écrit ce livre parce que je voulais réparer une injustice mémorielle ou tenter de le faire. Mais en même temps, j'étais sans arrêt confronté à des analogies avec des situations actuelles, quoi. Le parallèle, par exemple, avec Mélenchon me semble absolument évident. Les techniques de déconsidération, non pas d'un discours politique, mais d'un être en soi. Hein. Il est comme ça, donc il est forcément mauvais, donc voilà. Comment répondre à ce genre de choses ? C'est très très compliqué pour un homme politique de répondre à ce genre de choses. Et puis, aussi, je vois bien le discours sur les congés payés, par exemple, au moment du Front Populaire. Mmh. C'est le discours sur les 35 heures, après Martine Aubry, si vous voulez. C'est la même chose. Alors, à l'époque, on disait la paresse ouvrière. Maintenant, on dira, ça déstabilise la compétitivité de nos entreprises, etc. Le langage, c'est terriblement enfoui. Hein. Mmh. On emploie des mots beaucoup moins directement critiquables parce que, bon, on a pu démontrer que ceci ne tenait pas debout. On ne dira plus la paresse ouvrière. Mais c'est toujours les mêmes idées, c'est toujours sur les mêmes angles.
On n'a pas encore raconté dans quelles conditions est-ce qu'il a été arrêté et mis en prison. On a évoqué tout à l'heure, avec votre naissance, Hélène, le Massilia.
En septembre 39, il démissionne de son poste de ministre. Il n'était pas obligé, hein, comme ministre, il pouvait rester. Mais il dit, par quelques lignes qu'il adresse au président du Conseil, qu'il souhaitait partager le sort de ces jeunes qu'il avait servis pendant toutes ces années. Il part à la guerre, il fait la drôle de guerre. Et puis arrive l'invasion allemande de mai 40. Arrive le 17 juin, il apprend que, alors c'est les journées tragiques de juin, hein, le gouvernement s'est replié à Bordeaux, il apprend que l'Assemblée nationale va se réunir à Bordeaux. Or, il est toujours député. Donc, il pense que son devoir premier, c'est d'aller à cette réunion de l'Assemblée nationale, enfin de la Chambre des députés à l'époque, qui doit prendre des mesures extrêmement importantes, puisque c'est le moment de la défaite, armistice ou pas armistice, etc. Le gouvernement décide le départ de tous ces gens-là en Algérie, en passant par le Maroc, pour continuer la guerre.
Parce qu'à l'époque, l'Algérie, comme le Maroc, était encore des colonies françaises.
Voilà. Et il y avait toutes les forces, en effet, de l'Empire colonial français. Donc, beaucoup pensaient qu'on pouvait continuer la guerre. Donc voilà, c'est l'idée de ce bateau, le Massilia. Il s'embarque, lui, avec Mendès France, avec Mandel, avec beaucoup de gens, avec beaucoup de militaires. Et là, on voit très bien que Pétain et surtout Laval ont décidé de signer l'armistice. Mais ils laissent partir ce bateau et transforment cet épisode en piège. C'est-à-dire, pour Vichy, ça va être une occasion de se débarrasser de gens hostiles à l'armistice. Et de gens qui, après, seraient évidemment les premiers adversaires politiques.
L'armistice est signé alors même qu'ils sont sur le Massilia. Voilà.
Les parlementaires, sous les drapeaux, ils étaient quatre, ils sont arrêtés en arrivant au Maroc. Et là, ils vont avoir des sorts divers, mais Jean Zay, donc, va être immédiatement inculpé de désertion, ce qui n'a aucun sens. Tout le monde pense qu'il va être acquitté, et le verdict tombe, condamné à la déportation à perpétuité et à la dégradation militaire. C'est une peine qui était totalement tombée en désuétude depuis Dreyfus. C'est exactement la même peine que Dreyfus. Et symboliquement, c'est sûr que ce n'est pas le fait du hasard.
Cette histoire du Massilia, ça a été le choix de la défaite. Ça a été mieux vaut Hitler que le Front populaire.
Bien sûr, absolument.
Et là, derrière, je vois que vous avez un très beau cadre avec des photos en noir et blanc.
Ah, oui. Oui.
Là, c'est Jean Zay.
Alors là, c'est Jean Zay, je pense, en 32. À son visage, on peut dater à peu près à quel moment la photo a été prise.
Il a une cravate, des lunettes rondes. Hein. Il a toujours des lunettes rondes.
Si vous voulez ça, comme vous le voyez là, tel il était également à Rion.
En prison, mais...
En prison, mais libre. Là, c'est quasiment... Je pense la date du Festival de Cannes, parce que mon père, là, est en vacances. Il doit être en vacances chez les Pommarais, chez qui il allait très souvent en vacances.
Et
il
y a C'est la plage ?
C'est la plage. C'était juillet 39. Je suis enfant, j'ai 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans, là.
Oui, on vous voit avec un petit parka, bien habillé, avec des petites bottes.
Voilà.
Et il y a votre père qui est... Vous êtes,
oui,
vous êtes dans
les
bras.
Oui, il est habillé aussi, on est habillés sur la plage, tous les deux.
Il est voilà. En costume.
Hein. Il est en costume, oui. Peut-être qu'il était venu juste pour un week-end, je ne sais pas. C'est possible que ça soit comme ça.
Vous êtes dans ses bras, quand même.
Ah oui, parce que c'était un père aimant. Et ça, c'est la photo, alors, à Rion, un petit peu plus tard. Hélène est toute petite, c'est peut-être 41. Vous voyez, elle est pratiquement nouveau-née, là.
Ça, c'était après l'arrestation.
Oui, c'est ça. Et je pense que c'est pris peut-être dans la ville de Rion, parce que ce n'est pas la prison, ça. Mmh. Et on est toutes les deux là.
Vous êtes toutes les deux dans les bras de votre grand-père.
Voilà, c'est ça.
Léon Zay. Et vous alliez voir votre père ensuite, oui. En prison, oui. À Rion. Vous dites,
oui.
Rion, ça s'écrit Rion.
Je ne sais pas, oui. On dit Rion, il y a des gens qui disent Rium, mais nous, on a toujours dit Rion.
Rion, c'était à quelques kilomètres de Vichy.
Enfin, c'était à quelques kilomètres de Vichy, bien sûr. Bien sûr. Et ma mère traversait la ville quand elle allait à la maison d'arrêt avec la voiture d'enfant où il y avait Hélène et où, bien sûr, nous étions toutes les trois. Donc, elle ne se cachait pas. Sauf peut-être quand sa famille lui adressait du courrier, bien sûr, elle se faisait écrire au nom de Madeleine Dreux. C'était une prudence élémentaire tout de même. Et ma mère, là, que vous voyez, voilà, donc Madeleine.
Une belle femme, hein ?
Très, très belle femme. Avec une broche qui lui avait été achetée pour son anniversaire, une broche de l'époque.
Qu'elle a autour de son cou.
Qu'elle a autour de son cou.
Nous sommes deux, nous sommes deux. 8 heures vont bientôt sonner. Éteins la lampe, le gardien frappe. Ce soir, ils reviendront nous voir. L'un va devant, l'un va devant, et les autres suivent derrière. Puis le silence, et puis voici la même chanson qui revient.
L'un va devant, l'un va devant, et les autres suivent derrière. Puis le silence, et puis voici la même chanson qui revient.
Il frappe 2, il frappe 3, il frappe 1023. Tu as mal toi, Et j'ai mal moi, qui de nous deux a le plus mal, c'est l'avenir qui le dira. Nous sommes deux, nous sommes trois, nous sommes 1023, avec le temps, avec la pluie, avec le sang qui a séché, et la douleur qui vit en nous, qui nous transperce et qui nous cloue. Notre douleur nous guidera. Nous sommes deux, nous sommes trois, nous sommes 1023.
13 juin 1943.
Louis Jouvet, lisant un extrait de Souvenirs et solitude de Jean Zay, juillet 1947.
Le poids de la solitude s'accroît avec le soir et la nuit est couleur de détresse. Assombri par les hautes murailles qui l'encaissent, ma cellule commence tôt un crépuscule interminable. La lumière expirante du jour est encore une communion avec le dehors. J'en use jusqu'à la dernière parcelle. C'est dans cette pénombre prolongée que je reconnais la belle saison. Elle me donne à chaque jour, à cette époque, un gain de quelques minutes, gain de clarté et de naturelle sérénité. Je ne cède à la nuit qu'à la dernière extrémité, quand sous la plume les jambages ivres se chevauchent ou quand le livre noyé d'ombre exige d'être deviné. J'ai poussé ma table tout contre la fenêtre ouverte dont les barreaux et le grillage découpent sur le papier le crépuscule en hexagone léger. Circonscrites à cette pièce unique, enfermées dans quelques mètres carrés, mes habitudes ou simplement mon instinct y ont trouvé deux axes de vie. L'axe d'été se colle contre la fenêtre, attiré par le jour comme l'insecte par la lumière et cherchant à fuir au dehors, à se dilater, à s'étendre. L'axe d'hiver passe par le centre de la cellule où ronronne le poêle. Il se rapproche de lui, voudrait se confondre avec le feu, tente de se raccourcir, de se replier, de se concentrer. Ainsi, la pensée au beau temps prend son essor et gagne le large, narguant les murs de la prison pour se réfugier en elle-même, s'accroupir frileusement quand viennent le froid et les ténèbres. Ces déplacements de ma table sur quelques mètres, de la fenêtre au poêle, du poêle à la fenêtre, mesure pour moi la marche égale des années.
Ce que je veux dire, c'est que Souvenirs et solitude, c'est un livre qui rassemble l'ensemble des textes que Jean Zay a écrits en prison.
Qui a été écrit pour rappeler ce qu'il a fait, mais dire le sort qu'il vivait.
Les pages de Souvenirs et solitude sont sorties clandestinement de prison. Les pages de Souvenirs et solitude sont sorties clandestinement. Et sont sorties dans le bas de mon landau. Parce que les landaux de l'époque avaient un double fond. Enfin, il y avait une planche, vous savez, c'était des landaux rudimentaires. Les feuillets sortaient de prison sous le matelas. Mm-hmm. Et c'est comme ça que ma mère a sorti tous les feuillets de Souvenirs et solitude.
Alors le 20 juin 1944, ce qui se passe, c'est qu'on dit à Jean Zay, on va vous transférer dans une autre prison, en Île-de-France.
Oui, enfin on ne lui dit rien du tout. Il y a des miliciens qui arrivent et qui présentent au directeur de la prison un ordre de transfert. Et sur cet ordre de transfert, il y a écrit que Jean Zay doit être transféré à la prison de Melun et que le transfert sera fait par des miliciens. Le directeur de la prison obéit aux ordres. Ils partent, alors il n'a même pas le temps, il demande à voir sa famille, on lui dit non, vous partez tout de suite.
Il avait demandé à voir sa famille.
Oui. Et il part en lançant au directeur de la prison, je vous laisse face à votre conscience. Ensuite, en cours de route, les miliciens lui disent qu'en fait, ils sont des résistants déguisés et qu'ils viennent pour le faire échapper. Ils ne prennent pas la direction de Melun, évidemment. Ils prennent la direction de Vichy, puis de QC. Et là, ils vont à un endroit qui s'appelle le Puy du Diable. Et donc là, c'est l'assassinat. D'ailleurs, ça, c'est raconté par les témoignages du seul assassin qui a été arrêté, parce qu'ils étaient quatre, et jugé.
Mais l'assassinat, ce que j'ai lu, c'est que les personnes qui avaient assassiné votre père, donc ces miliciens de Vichy, hein, se sont arrangés pour qu'on ne retrouve pas son corps, pour qu'on n'identifie pas. Donc ils lui ont ôté ses vêtements et ôté l'alliance.
Ils l'ont jeté dans ce qui était une espèce de grand trou. Ils ont été chercher du plastique à Vichy, ils ont fait sauter l'ensemble. Et c'est seulement donc en 1948, au moment où Devel est arrêté, qu'il raconte ce qui s'est passé.
Au revoir Gabriel.
Au revoir.
À bientôt.
À bientôt.
Ouais. Je viens de changer ma... Il y a du vent, hein? Il y a du vent, ouais. Vous avez froid? On est devant la tombe de Jean Zay. Il est écrit 1944.
Ancien ministre assassiné par les ennemis de la France le 20 juin 1944.
Là, c'est une belle tombe, assez simple. Hein.
On leur parle quand on vient. Dans le silence du cimetière, c'est le moment le plus fort, sans doute. On leur confie des choses de la vie. Et si vous voulez savoir que notre mère est là, auprès de son mari, il y a une espèce de sérénité tout de même. Mais c'est une belle tombe, ça c'est sûr. C'est une tombe qui a été évidemment installée juste après 1948. Enfin, je ne sais pas quand exactement le marbre a été gravé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur cette plaque, les assassins, ce sont les ennemis de la France. Au lycée Jean Zay, où la première plaque a été mise en 61, je crois, c'est victime de la barbarie nazie. Mais à aucun moment, la responsabilité de Vichy, enfin, ni même Vichy, n'est nommée.
En tout cas, vous voyez, c'est un bel endroit, parce que c'est au centre du cimetière.
Ouais. Et... juste au niveau de la place principale et du monument aux morts.
70, oui.
C'est un monument
qui... Oui, c'est un monument aux morts de la guerre de 70.
Ah, oui.
Donc c'est
1870,
c'est un beau symbole.
Ouais.
Oui, d'accord. Ah oui.
Ah, le cimetière va fermer.
Oui, il ne faudrait pas se faire enfermer.
D'accord.
C'est beau la radio, on fait ce qu'on veut, je crois, avec ça.
Ouais, c'est magnifique.
Merci à toutes et à tous. C'était Jean Zay, quand la gauche essayait, un reportage d'Anaël Verzo. Merci à Hélène et Catherine Zay, ainsi qu'à notre ami le sociologue Christian de Montlibert. Merci aussi à Gérard Boulanger, l'auteur de L'affaire Jean Zay, la République assassinée chez Calman Lévy. Merci à Antoine Prost, auteur de Jean Zay et la gauche du radicalisme, aux éditions des presses de Sciences Po. Et puis, vous pouvez retrouver un numéro de Rendez-vous avec X consacré à Jean Zay. C'était le 22 mai 2004. Jean Zay, assassiné par la milice. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique Programme, émission là-bas, si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site là-bas.org, là-bas.org, et faites aussi un tour sur la page Facebook de là-bas si j'y suis pour un hommage à Georges Moustaki. À la technique aujourd'hui, Yann Bouillot et Alexandra Bergel. C'est Lucie Hakoun et Chloé Sanchez qui ont réalisé cette émission préparée avec Grégory Salomonovitch. Marion Dupas, quant à elle, attend dès à présent vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Aujourd'hui, pour déclarer ses revenus, le plus simple, c'est d'aller sur Internet. Par exemple, si vous étiez trop occupé pour envoyer votre déclaration, Que vous ne pouviez pas poster votre déclaration à temps ?
Oui, non, mais en fait, c'est parce que je me suis fait enlever par des extraterrestres, mais comme ils sont pas très bons en géographie, ils m'ont déposé très loin de chez moi, et du coup, le temps que je rentre...
Avec la télédéclaration, vous avez un délai supplémentaire pour déclarer vos revenus. En quelques clics, c'est fait. Et pour cela, rendez-vous sur impots.gouv.fr.
La télédéclaration, pensez-y, ça vous simplifie la vie.
Ceci est un message du ministère de l'Économie et des Finances.
Comment tu vas l'appeler, ton bateau ?
Zeus, dieu de la mer.
Ben, c'est pas Zeus, le dieu de la mer, c'est Neptune.
Ah bon ? Si je l'appelais Matmut, assureur de bateau ?
Ah, ça c'est sûr, c'est un beau nom.
Matmut, assureur de bateau.
Selon conditions définies au contrat d'assurance navigation de plaisance.
Attention, mardi dernier, le jackpot Euromillions n'a pas été gagné. Ce vendredi, il atteindra près de 85 millions d'euros. À partager au rang 1, voire règlement.
Euromillions, et si votre vie devenait infiniment plus riche ? Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché.
France Inter présente Vers les lueurs, l'album de Dominique A.
Mais comment vais-je faire pour te faire passer le
Ne manquez pas les dernières dates de la tournée de Dominique A et son concert à Paris le 30 mai au Trianon.
Pour te ramener vers le bleu.
Retrouvez Dominique A dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr. France Inter, partenaire de la 7e édition des Assises internationales du roman du 27 mai au 2 juin à Lyon, organisée par Le Monde et la Villa Gilet. Des écrivains, des comédiens, des débats, des lectures, toute la littérature du monde s'invite à Lyon pendant 7 jours. Et retrouvez le grand entretien et l'humeur vagabonde en direct et en public du restaurant Le Quai des Arts à Lyon, mercredi 29 mai à partir de 17h. Renseignements sur franceinter.fr.
On se retrouve demain à 15h pour La Basse, j'y suis. Il est 16h sur France Inter. Les infos, Laetitia Neri.
Paris appuiera tous les efforts du Niger pour faire cesser la prise d'otages à Agadez. En marge d'un déplacement à Leipzig en Allemagne à l'occasion du 150e anniversaire du SPD, le Parti social-démocrate, François Hollande a donc expliqué qu'il ne s'agissait pas là d'intervenir comme au Mali. Il s'agit d'anéantir le groupe islamiste du Mujao qui a attaqué un camp militaire donc à Agadez et un site d'Areva à Arlit. À Agadez, donc, 23 personnes ont été tuées, dont 4 kamikazes, mais un assaillant est toujours en vie et il retient actuellement des élèves officiers dans le camp militaire. À Arlit, cette fois, c'est le site du groupe nucléaire français Areva qui a été visé par une attaque à la voiture piégée. Il y a un mort et 14 blessés, des travailleurs nigériens. La mine d'uranium, elle, est à l'arrêt. Les dégâts sont, dit-on, importants. Or, c'est un site stratégique pour la France. Le site d'Arlit fournit près d'un tiers de l'uranium des centrales nucléaires françaises. Les auteurs présumés du meurtre barbare sur un soldat britannique hier à Londres, eux, sont d'origine nigériane. La police londonienne a perquisitionné le domicile de la famille de l'un d'entre eux. Apparemment, selon des médias britanniques, les deux hommes qui disent avoir agi au nom d'Allah ont été élevés dans la religion chrétienne avant de se convertir à l'islam. « Nous ne céderons jamais devant la terreur ou le terrorisme », a déclaré ce midi David Cameron, le Premier ministre britannique, à l'issue d'une réunion de crise. La fermeture de l'usine PSA d'Aulnay s'organise petit à petit. À partir du 10 juin prochain, elle fonctionnera avec une seule équipe contre deux actuellement. Mais cela ne devrait pas modifier le rythme de l'usine qui fonctionne depuis le 8 avril dernier uniquement le matin. Deux militants CGT ont été interpellés ce matin à Roanne et placés quelques heures en garde à vue. Ils ne voulaient pas soumettre à un prélèvement ADN suite à une condamnation pour dégradation en réunion, d'où leur interpellation. Une centaine de personnes, dont la maire socialiste de Roanne, ont manifesté ce matin devant le commissariat de police de la ville pour protester. Autre manifestation à Paris cette fois, une cinquantaine d'éleveurs d'ovins accompagnés de leurs bêtes se sont postés cet après-midi devant le ministère de l'économie. Ils dénoncent le coût de revient du loup aux contribuables français, 12 millions d'euros par an, dont 8 dédiés à la protection de l'espèce. Il faut tuer des loups, disent les éleveurs de brebis. Avec le printemps, les troupeaux ont en effet été ressortis et les attaques ont repris. Les éleveurs d'ovins dénoncent des moutons sacrifiés aujourd'hui. Le plan loup, signé la semaine dernière pourtant par le gouvernement, prévoit le prélèvement de 24 loups pour la période 2014-2013, soit plus du double de l'an dernier. La prise en charge des enfants victimes du cancer n'est pas la même selon les régions en France. L'Union nationale des associations de parents d'enfants atteints de cancer publie aujourd'hui un livre blanc sur les disparités régionales. Autre dégradation ces dernières années, la prise en charge sociale et financière des familles, ainsi que le retour à domicile qui est mal encadré. On dénombre 1700 nouveaux cas chaque année de cancer chez les moins de 15 ans et 700 chez les 15-19 ans. Enfin, la Russie s'apprête à évacuer d'urgence sa station polaire sur la banquise du pôle Nord. Les neiges font actuellement
s'étend anormalement selon le ministère russe des ressources naturelles et de l'écologie. Des fissures sont apparues, la glace se crevasse et cela menace maintenant la vie des 16 personnes qui y travaillent. Vous écoutez France Inter, il est 16h03. Et comme il n'y a pas de pub et que j'ai oublié, et ben c'est tout de suite avec vous, Carrefour de l'Odéon. Frédéric, bonjour.
Merci Laetitia Gaillet, on vous retrouve à 17h. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Henri Dutilleux, on en a beaucoup parlé, on continue à en parler d'ailleurs et entendre sa musique sur France Musique, un programme entièrement dédié à ce grand maître qui nous a quittés, qui vient de nous quitter. Et puis hier, c'était la journée Wagner, un beau programme sur Arte aussi, le soir, jusqu'à assez tard, avec un film muet projeté sur Wagner, sa vie, à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance, donc c'était en 1913, et on a vu un orchestre jouer sur le vif, accompagner le film, comme ça se faisait autrefois avant qu'il y ait des bandes son, puis maintenant des fichiers numériques, bien sûr. Donc merci Arte et bravo. Et quant à moi, j'ai voulu conclure l'émission hier par la mort d'amour d'Isolde, et puis trahison du disque, enfin, ou du lecteur, ou les deux conjugués. Ça a cliqué, ça s'est arrêté. Mais on ne va pas évidemment s'arrêter sur cette frustration, ce serait trop dommage dans un grand élan amoureux. Et ça me permet de lire un mot en plus, parce que hier on n'aurait pas eu le temps, de Richard Wagner qui parle de Tristan et Isolde. Il dit « N'ayant jamais connu dans la vie la vraie et pure joie d'aimer, je veux élever au plus beau des rêves un monument dans lequel cet amour sera du début jusqu'à la fin réellement et totalement assouvi. Je pense à un Tristan et Isolde, à la conception musicale la plus simple et la plus intense. Je veux ensuite m'envelopper de la voile noire flottante de la fin et mourir. » Un peu grandiloquent parce qu'il ne va pas du tout mourir, Wagner. Mais enfin, c'était une manière d'attirer l'attention sur lui, peut-être notamment de la part de Madame Wezendonck, la femme de son protecteur. Et quant au texte d'Isolde, j'ai dit le tout début hier, mais je vais continuer un peu plus. Doux et serein, elle est devant le cadavre de son amoureux, je le rappelle, elle croit qu'il vit encore. Comme il sourit, comme il ouvre avec grâce les yeux, le voyez-vous, ami, ne le voyez-vous pas? Toujours plus lumineux, comme il resplendit, auréolé d'étoiles, il s'élève dans les cieux, ne le voyez-vous pas? Comme son cœur se gonfle avec ardeur, sublime et plein, et s'exalte dans son sein, comme ses lèvres sont douces et délicieuses, et exhale un souffle suave, lentement. Ami, voyez, ne le sentez-vous pas? Ne le voyez-vous pas?